Imagine un instant le scénario suivant. Une femme se retrouve devant un tribunal accusée du meurtre de son mari. Les preuves sont ultra complexes, l'atmosphère est super lourde. Et elle sait pertinemment que refuser de prononcer le moindre mot pour sa défense, bah ça va sceller son destin.
Elle finira ses jours derrière les barreaux, quoi.
Exactement. Et pourtant, face à cette institution qui a le pouvoir de détruire complètement ce qu'il reste de sa vie, eh bien elle choisit quand même le silence absolu.
C'est fou. C'est le genre de situation où tu dis, mais pourquoi faire ça?
Bah oui, c'est intriguant. Et aujourd'hui, on va justement voir comment une nouvelle vague de la littérature africaine utilise ce fameux silence, mais aussi des meurtres savamment orchestrés, et même, tiens-toi bien, des malédictions ancestrales pour réécrire totalement les règles de la justice et de l'émancipation.
Sélection littéraire assez phénoménale. En fait, les étagères de notre bibliothèque imaginaire, là, elles s'étendent bien au-delà de la géographie traditionnelle d'aujourd'hui.
Ouais, ça va dans tous les sens, c'est clair.
C'est ça. On a un panorama qui englobe l'effervescence urbaine de Lagos, les avenues d'Abuja, les paysages de la Zambie, l'architecture du Maroc et même jusqu'aux rues de Washington pour la diaspora.
Bon, décortiquons tout ça. Parce que l'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est de passer au crible cette super liste de lectures. Elle est issue d'un article paru à la fin de l'été 2026, rédigé par Félicité Amaniayara Vincent pour le média Radio Tam Tam Africa.
Une très belle sélection d'ailleurs.
Absolument. L'article liste les 10 romans africains incontournables de cette période. Et notre mission, sources à l'appui bien sûr, c'est d'explorer la richesse vraiment vertigineuse de cette création littéraire contemporaine. Une littérature qui franchement pulvérise la moindre tentative de stéréotype.
Complètement. Elle s'empare d'une variété de genres inouïs. On passe du thriller psychologique au fantastique, de la romance au drame judiciaire.
Ouais, c'est hyper riche. Mais pour saisir vraiment la portée de cette sélection, je pense qu'il faut d'abord observer le cercle de pouvoir le plus restreint. Et peut-être le plus insidieux, en fait. Le foyer familial.
Ouais, l'espace domestique. C'est effectivement le point de départ de plusieurs de ses œuvres. Le mariage, il n'est pas du tout présenté comme un refuge romantique ou un partenariat égalitaire, hein.
Pas du tout, non.
C'est plutôt dépeint comme un espace de négociation brutale et de silence forcé, particulièrement pour les femmes. Et Fatima Bala illustre remarquablement bien cette tension dans son recueil de nouvelles qui s'appelle « The Lies We Tell ».
Ouais, un recueil très marquant.
Vraiment. Elle nous emmène dans le nord du Nigeria, entre Zaria et Abuja, pour suivre le parcours de plusieurs femmes à Hausa. L'autrice tisse une toile super complexe autour de secrets transgénérationnels. Et surtout de la confrontation entre les désirs individuels et des attentes sociales qui sont d'une rigidité implacable.
Et ce qui ressort direct de la lecture de ces nouvelles, c'est que ces femmes, elles sont fondamentalement coincées.
Ouais, elles sont piégées.
C'est le mot. Elles ne peuvent pas affronter frontalement les traditions familiales, parce que sinon, c'est le risque du bannissement ou de la ruine sociale totale. Donc elles sont contraintes d'utiliser le mensonge pour survivre, pour s'aménager de toutes petites poches de liberté.
C'est leur seul moyen d'action, finalement.
Exactement. Et du coup, ce silence et ces non-dits, je les vois pas du tout comme un manque de courage. C'est carrément une véritable armure invisible, une armure qu'elles forgent patiemment, jour après jour, omission par omission. Tout ça pour éviter d'être psychologiquement broyées par un environnement qui exige juste leur soumission.
Et d'ailleurs, cette notion d'armure psychologique, elle trouve un écho super terrifiant dans un autre ouvrage de la liste. C'est The Chipikisha Club de la romancière Mubanga Kalimamu Kwento. C'est là qu'on retrouve Sally, la femme zambienne dont tu parlais dans ton scénario d'intro, celle qui est jugée pour le meurtre de son mari.
Ah voilà, on y vient.
Ouais, le roman nous plonge dans la mécanique de son procès. Mais surtout, et c'est là que c'est fort, dans les 14 années de huis clos conjugal qui ont précédé. 14 ans, quoi. D'infidélité notoire, de ruines financières imposées par le mari, d'alcoolisme et de violence au quotidien.
Et pendant les audiences de ce procès, c'est dingue, tout est déballé devant tout le monde. Même la propre fille de Sally vient témoigner à la barre pour raconter ce qu'elle vire de l'antérieur.
Ouais, c'est d'une violence inouïe.
Toutes les circonstances atténuantes possibles sont étalées sous les néons du tribunal. Mais l'accusée principale, Sally, elle oppose ce fameux silence de marbre à la cour. Et franchement, je dois avouer que ça me perturbe un peu.
Comment ça?
D'un point de vue purement légal et stratégique, refuser de parler devant un juge qui tient ta vie entre ses mains, c'est un peu l'équivalent d'un suicide judiciaire, non? Comment l'autrice arrive-t-elle à transformer cette décision, qui a l'air super autodestructrice, en une vraie victoire symbolique?
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est toute la force de l'argumentaire de Kalima Mukwento. Le mutisme de Sally, en fait, il vient percuter et fissurer l'architecture même de notre système judiciaire moderne. Un tribunal, à la base, c'est conçu pour analyser des vérités très factuelles et binaires.
Du genre, y a-t-il eu préméditation? À quelle heure est-il mort? Ce genre de truc.
C'est ça. Qui a tenu l'arme? L'institution, elle cherche à isoler un instant T. Mais comment un juge, avec tous ses codes et ses lois hyper rigides, il peut mesurer, quantifier et juger 14 années d'une érosion psychologique lente et invisible?
C'est impossible, ouais.
Sally, par son silence, elle dénonce carrément l'incapacité viscérale de la justice institutionnelle à comprendre la violence domestique. Pour elle, accepter de se défendre avec le langage du tribunal, bah, ce serait valider un système qui, pendant 14 ans, est resté complètement aveugle à sa destruction à elle. Son mutisme, c'est un rejet total de la juridiction de la Cour sur sa propre souffrance.
C'est puissant. Et tu sais, ce mutisme institutionnel, il cache aussi une autre dynamique tout aussi complexe. Parce que quand on quitte l'espace public du tribunal pour s'enfoncer dans les secrets internes d'une famille, les stratégies de survie prennent une autre dimension. Surtout que le passé refuse toujours obstinément de rester enterré.
Ah oui, le fameux retour du refoulé.
C'est ça. Et l'article de Radio Tam Tam Africa met super bien cette thématique en lumière à travers Grâce, le roman de Chika Uniwe.
À Grâce, le point de bascule de ce roman est d'une cruauté mais vraiment chirurgicale. Le personnage principal, Grâce, elle mène une vie que la société considère comme la réussite absolue, quoi. Elle est mariée, elle est mère de jumelles épanouies, elle possède une clinique médicale hyper prospère.
Sur le papier, tout roule.
Tout fonctionne à merveille. Sauf que, le jour de l'anniversaire de son enfant actuel, qu'elle surnomme Baby, il y a un événement totalement impensable qui se produit. Son tout premier enfant, issu d'une histoire qu'elle avait méticuleusement enfouie et qu'elle n'a pas vue depuis 26 ans, refait surface dans sa vie.
Bam ! 26 ans après. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que sa vie, parfaitement reconstruite, n'est pas un banal château de cartes qui s'écroule au premier coup de vent. C'est pas si simple.
Non, c'est beaucoup plus profond.
Je vois plutôt ça comme un pont suspendu ultra-moderne, majestueux, à la pointe de la technologie. Mais le problème, c'est qu'il a été construit directement au-dessus d'une faille sismique extrêmement instable. Et pendant un quart de siècle, le pont tient bon. Tout le monde admire l'ingénierie. Et puis soudain, paf, la plaque tectonique du passé se remet en mouvement.
C'est une super métaphore, ouais.
Et en lisant l'analyse de cette intrigue, bah, y a une question assez vertigineuse qui se pose pour quiconque s'intéresse à la construction de l'identité. Est-ce qu'on passe réellement à autre chose en grandissant ou notre vie d'adulte consiste-t-elle simplement à administrer, masquer et gérer les traumatismes hérités de nos parents et de nos choix de jeunesse?
Ben, ça, c'est carrément le cœur du réacteur de l'expérience humaine. Et la littérature africaine de 2026, elle s'empare de ce fardeau familial avec des outils narratifs qui sont d'une grande intelligence. Oinken Braithwaite, par exemple.
Ah, j'adore cette autrice.
Ouais. Elle explore exactement la même problématique dans son roman Cursed Daughters. Mais alors, elle attaque le sujet sous un angle diamétralement opposé à celui de Chika Uniwe.
C'est vrai qu'on se souvient tous du style hyper corrosif de Braithwaite, avec son précédent succès, Ma sœur sérielle killeuse. Là, elle s'aventure sur le terrain de la réincarnation et de la malédiction. Le synopsis est dingue. C'est une jeune femme, convaincue d'être la réincarnation de sa cousine décédée, qui se lance dans une quête désespérée pour briser un sortilège qui frappe sa lignée.
C'est ça, là où Chika Uniwe utilise un réalisme plutôt mélancolique et intime pour parler de la culpabilité, Braithwaite, elle, dégaine son ironie mordante et son humour noir. Elle ausculte vraiment la rivalité féminine toxique et la superstition.
Mais au fond, ça parle de la même chose.
Exactement, le mécanisme profond est le même pour les deux autrices. La malédiction dans Cursed Daughters, c'est pas juste un petit artifice de pure fantaisie pour faire joli. C'est la matérialisation psychologique du poids complètement écrasant des attentes que les familles font peser sur les femmes.
Ouais, ces espèces d'obligations silencieuses.
Ces histoires de malédiction qu'on se transmet de mère en fille, en réalité, c'est des prophéties autoréalisatrices. Ce sont des croyances limitantes qui emprisonnent les individus dans des cycles infinis de reproduction de la souffrance.
C'est terrible. Et ce poids étouffant des attentes, malheureusement, il ne se limite pas à la sphère individuelle. L'article de Félicité Amaneya Ravincent montre de façon assez troublante que si l'on multiplie cette pression et ces traumatismes à l'échelle de, disons, millions de personnes, ben on obtient les plans architecturaux d'une société entière au bord de la fracture.
C'est le passage au niveau au macro, oui.
Et c'est justement ce passage du drame intime à la tragédie urbaine qui est au centre de One Leg on Earth de Pemi Aguda.
Ah oui, alors là, le décor se déplace à Lagos, une mégapole ultra bouillonnante. Et le roman s'ouvre sur un phénomène macabre, totalement inexplicable. En fait, des femmes enceintes se dirigent vers les cours d'eau de la ville et s'y noient mystérieusement.
C'est super angoissant.
Très. Et au milieu de cette vague d'horreur urbaine, on suit Yozoye. C'est une jeune femme de 23 ans, qui est elle-même enceinte.
Et le génie de cette intrigue, c'est vraiment l'environnement de travail de Yozoye. Elle est impliquée dans Omicity. C'est un projet immobilier tentaculaire hyper luxueux qui est présenté comme le sommet absolu de l'innovation et du progrès pour Lagos. Sauf que
les apparences sont trompeuses.
Exactement. Plus les noyades se multiplient, plus il y a un lien mortel qui semble émerger entre cette modernité étincelante d'Omicity et ces tragédies. C'est une dynamique que personnellement j'expliquerais avec l'image d'un smartphone ultra luxueux de dernière génération.
Ah, explique. Comment ça ?
Eh bien, extérieurement, le design du téléphone, il est parfait. Il incarne le sommet du développement, tout le monde rêve de l'avoir. Mais quand tu creuses dans les chaînes de production, tu découvres que sa batterie émet des radiations mortellement toxiques qui empoisonnent à petit feu les ouvriers de l'ombre juste pour offrir du confort aux privilégiés.
Ah, je vois, oui.
Le progrès urbain symbolisé par Omicity, il fonctionne exactement sur ce mécanisme-là. Il dévore silencieusement les plus vulnérables pour pouvoir ériger ses belles façades de verre.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est vraiment très juste. L'irruption du fantastique chez Pemi Aguda, en fait, ça sert précisément à rendre visible cette toxicité cachée.
Ouais, parce que c'est souvent invisible autrement.
C'est ça. Dans le contexte de la modernisation ultra-capitaliste de certaines grandes villes africaines, où le profit écrase souvent la moindre considération humaine, la violence économique est d'une telle brutalité que le réalisme littéraire classique, il peine parfois à en capturer toute l'ampleur. Du coup, le surnaturel devient la seule lentille capable de révéler cette cruauté systémique.
C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que cette même approche, qui consiste à utiliser les mythes pour disséquer des failles bien réelles, elle est au cœur d'un autre roman de la liste. C'est A Siege of Owls, du Chenawok.
Oui, un roman très fort aussi.
L'histoire suit Ekwe. C'est un jeune garçon d'un village igbo qui va transgresser un tabou majeur en touchant une feuille formellement interdite par son père. Et à partir de là, boum, il est précipité dans un voyage initiatique à travers des déserts, des zones de conflit, et il est accompagné par la présence vraiment menaçante de hibou.
Ça a l'air très ancré dans le mythe.
Totalement. Mais concrètement, j'ai une question. Comment on passe de la désobéissance d'un gamin qui touche une feuille à, disons, la représentation de l'effondrement politique d'une nation entière comme le Nigeria contemporain ? Parce que, honnêtement, le lien de cause à effet ne saute pas direct aux yeux.
C'est vrai que ça peut paraître éloigné, mais le mécanisme narratif du Chena Awoke est extrêmement sophistiqué. L'acte de toucher cette feuille interdite, en fait, ça représente la rupture du contrat social initial. C'est la perte d'une innocence fondatrice.
D'accord, un point non-retour.
Voilà. À partir de cette transgression, le tissu même de la réalité d'Ekwe se déchire. Et les hiboux qui le suivent, ce ne sont pas de simples oiseaux menaçants tirés du folklore. Dans la cosmologie du bouquin, ils incarnent les anciennes structures de l'ordre moral et spirituel. Des structures qui, aujourd'hui, ont été corrompues et vidées de leur sens par la cupidité moderne.
Ah, donc ils représentent ce qui a été perdu ?
Exactement. Le périple physique d'Ekwe à travers les zones de guerre du Nigeria n'est que la manifestation géographique d'une nation qui s'est cannibalisée elle-même. Les institutions et le capitalisme ont avalé les croyances ancestrales, pas pour s'en nourrir spirituellement, mais juste pour justifier et maintenir un système d'exploitation vraiment impitoyable.
Mais tu sais, face à ces mégapoles empoisonnées, face à cet effondrement des repères politiques, la résignation pourrait sembler inévitable.
On pourrait croire, oui.
Pourtant, la vitalité de cette sélection estivale s'exprime justement par le refus de la soumission. Et ce qui m'interpelle profondément dans la suite de l'article de Radio Tom Tam Africa, c'est la méthode choisie par ces auteurs pour raconter la reconquête de ce pouvoir. Ils n'écrivent pas des manifestes politiques arides et ennuyeux.
Loin de là.
Non, ils s'emparent à bras-le-corps des codes du divertissement pur. La fantaisie épique, la romance spirituelle, le suspense criminel.
Ouais, le contraste stylistique avec le reste de la sélection, il est assez saisissant. Par exemple, Soraya Bouazaoui avec Aïcha, elle nous plonge dans une fantaisie épique située dans un Maroc alternatif sous domination portugaise. Là, on a carrément une déesse guerrière qui déchaîne sa magie contre l'oppression impériale.
Rien que ça, ouais. Et après, on a Tomi Lola, Coco Adeyemo, non ?
Oui, dans FN's Jazz, elle explore la quête de liberté d'une femme, Nicole, qui fuit un mariage hyper oppressant pour retourner à Osogbo. Et là, elle rencontre un homme d'affaires endeuillé, ce qui initie une romance très profondément entrelacée avec la spiritualité yoruba.
Et le genre de la romance s'invite aussi dans la diaspora d'ailleurs, avec To Catch a Sinner. C'est écrit par le duo Dylan Allen et Lucy Wilson-Tago. On y suit une journaliste d'investigation et un avocat avec de lourds secrets dans un thriller romantique vraiment haletant au beau milieu des couloirs du pouvoir de Washington.
Ça donne envie de le lire.
Carrément. Et alors, on atteint l'apogée du suspense avec le 10e livre de notre liste, The Heirs, de Farida Abike-Ihimide. C'est un pur huis clos, vraiment à la sauce whodunit. Le richissime Leontes Botton est assassiné en plein milieu de son extravagant bal des prodiges.
Le grand classique de l'enquête, quoi.
Oui, et les suspects évidents, bah, ce sont ses 5 enfants adoptifs. Octavius, Fola, Bilal, Perdita et Roméo. Mais là, je dois jouer l'avocat du diable une minute.
Vas-y, je t'écoute.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie, hein? Quand on superpose une déesse guerrière marocaine, des romans stories près de la Maison Blanche et le meurtre hyper théâtral d'un milliardaire avec 5 héritiers au profil de génie façon Cluedo, est-ce qu'on quitte pas complètement le terrain de la littérature pour basculer dans l'évasion purement commerciale?
C'est une critique qu'on entend souvent.
Bah oui, où se situe l'impact sociologique ou politique dans un tel déferlement de code hollywoodien en fait?
Eh bien, cela soulève une question importante, mais honnêtement, cette critique passe complètement à côté du mécanisme subversif de ces ouvrages. Faut comprendre que pendant des décennies, le marché de l'édition mondiale a, de façon implicite, exigé des auteurs africains qu'ils se cantonnent à une littérature de témoignages.
Ouais, des trucs graves, misérabilistes.
Voilà, toujours documenter les guerres ou la pauvreté avec un réalisme brut. Donc, refuser cette assignation à résidence littéraire en s'appropriant les genres de l'imaginaire, bah, c'est un acte de rébellion monumentale, en fait.
Et du coup, comment cette rébellion s'articule concrètement dans une enquête criminelle comme celle de The Heirs, par exemple?
Dans The Heirs, Farida Abike-Ihimide utilise le meurtre du patriarche vraiment comme un cheval de trait pour labourer et détruire le mythe de la méritocratie toxique. Léonce Button n'a pas du tout adopté ses 5 enfants par altruisme. Il les a recrutés et élevés exactement comme on gère un portefeuille d'actions de start-up ultra compétitive.
Ouais, ambiance de malade.
Il exigeait d'eux la perfection absolue, ce qui a créé un incubateur de génie traumatisé. Et donc, l'intrigue criminelle et le suspense du huis clos obligent le lecteur à examiner comment l'hypercapitalisme transforme l'amour filial en une simple transaction conditionnelle. L'enquête pour trouver l'assassin, c'est finalement le mécanisme qui permet de déconstruire ce système d'excellence étouffant.
D'accord, je vois. C'est hyper subtil sous des airs de gros thriller.
Et c'est pareil de la même manière quand Aisha, Wiffens, Jazz fusionnent la romance, la spiritualité et le combat héroïque, ces romans redéfinissent la liberté intime. Occuper l'espace du thriller psychologique ou de la fantaisie épique, c'est proclamer le droit fondamental à l'imagination totale.
C'est s'affranchir des carcans, quoi.
C'est ça. C'est affirmer haut et fort que les personnages africains ont, eux aussi, le droit d'être les figures centrales, complexes et triomphantes de grands récits de mystère ou d'amour. Et ça, sans avoir à porter en permanence le poids de l'histoire tragique de tout un continent pour justifier leur présence dans un livre.
Donc, il y a une dimension politique indéniable dans le simple fait de s'autoriser la fiction de genre. Et en observant l'ensemble de cette incroyable sélection estivale de 2026, mise en lumière par Radio Tom Tam Africa, bah on peut dire que la vitalité de ces voix, elle force vraiment le respect.
Ah oui, incontestablement.
On a traversé les cours de justice de la Zambie, les foyers sous tension du nord du Nigeria, les chantiers mortels de Lagos, l'histoire alternative du Maroc et les hautes sphères de Washington. On a croisé des accusées silencieuses, des mères hantées par leurs mensonges, de jeunes garçons marchant parmi les hiboux et des héritiers suspects dans un manoir luxueux.
Et toute cette profusion stylistique et thématique, elle prouve de manière totalement irréfutable l'obsolescence absolue du fameux récit unique africain. Essayer de synthétiser ou de lisser cette littérature sous une seule étiquette exotique, aujourd'hui ça relève vraiment de l'aveuglement intellectuel.
C'est très clair. Et pour quiconque aspire à comprendre les dynamiques sous-jacentes du monde actuel, il est essentiel de réaliser que plonger dans ces œuvres, c'est pas du tout une démarche de niche. Ces 10 romans utilisent des contextes géographiques et culturels très pointus pour disséquer des luttes dont la résonance, au final, est universelle.
Des questions que tout le monde peut se poser.
Ouais, du genre, Comment survivre à l'ombre de son propre passé? Comment forger sa liberté intime sous le regard implacable de la société? Ou même, comment réagir quand la structure même de la famille devient toxique?
La grande littérature fonctionne toujours sur ce paradoxe apparent. C'est en explorant la spécificité la plus aiguë, qu'il s'agisse des rituels Yoruba ou des non-dits d'un mariage Haoussa, qu'on touche à l'essence même de la condition humaine globale.
C'est magnifique. Et cette résonance universelle nous amène à une réflexion finale, une idée à ruminer, on va dire, bien après que le son de notre voix se soit tu. Au fil de notre exploration, il y a un concept qui n'a pas arrêté de revenir hanter les différentes œuvres. C'est l'incapacité de la réalité à rendre la justice.
Ah oui, le système qui échoue.
Sally, elle refuse de parler à un tribunal qui est incapable de mesurer l'invisible. Yosoye constate l'indifférence cruelle d'une ville face aux femmes noyées sur les rives de ce luxe. Si la littérature, même fantastique, agit comme le miroir de notre époque, que révèle donc cette obsession pour la justice impossible ?
Bonne question.
Face à l'échec structurel de nos institutions modernes à protéger les plus vulnérables et à condamner les véritables abus de pouvoir, est-ce devenu la responsabilité exclusive de la fiction de prononcer les sentences que la réalité refuse obstinément d'appliquer ? La question mérite vraiment d'être posée.